Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Bienvenue parmi nous. Très heureux de vous retrouver ici à Manosque, toujours en nombre. Et très heureux d'attaquer ce week-end de rencontre en ce qui me concerne en compagnie de Philippe Génada. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour mon vieux Yann.
Merci. Ben, voilà, ça commence. Très heureux de te retrouver mon cher ami pour parler avec toi de ton nouveau livre paru en cette rentrée littéraire aux éditions Mialet Barreau. Ce livre qui s'intitule « La désinvolture est une bien belle chose ». Un bien beau titre d'ailleurs dont on va bien sûr parler pendant cette conversation. C'est à la louche ton 15e ou 16e livre peut-être ?
Ça doit être quelque chose comme ça, oui. 15e on va dire.
15e on va dire comme ça. Depuis la parution à la fin des années 90 d'un livre qui s'appelle « Le chameau sauvage », tu as publié ensuite un certain nombre de livres, et je vais peut-être en citer un ou deux qui me tiennent particulièrement à cœur. « Vie et mort de la jeune fille blonde »,« La femme et l'ours », qui est un livre que j'aime énormément. Et puis, bien sûr, tous les livres dont on pourrait dire qu'ils sont des livres enquête que tu as publiés d'abord chez Julliard et puis ensuite chez Mialet Barreau. Évidemment, « La petite femelle » autour de Pauline Dubuisson, on en reparlera. « La serpe », plus récemment au Printemps des monstres, et on en reparlera aussi puisqu'il en est aussi question dans ce livre-là. Et donc tu publies ce livre qui est une nouvelle fois une forme d'enquête. Tu te lances sur les traces d'une femme qui s'appelle Jacqueline Arisp, alias surnommée Kaki, une femme dont tu découvres le destin précisément en travaillant sur un livre précédent, mais on en reparlera. Un destin qui t'intrigue, et notamment puisque c'est un destin bref et tragique, puisque cette jeune femme est décédée à l'âge de 20 ans, au début des années 50, en novembre 53, en se jetant par la fenêtre d'un hôtel, enfin en se jetant, c'est en tout cas la version officielle, mais c'est un des motifs du livre que de découvrir les conditions et les circonstances de sa mort. Et puis à partir de cette fascination, ou en tout cas de cette chose qui t'intrigue, tu vas tirer les fils. Tu vas enquêter, comme tu le fais habituellement, à la fois sur le terrain, avec des témoignages, avec des archives, avec des livres, pour essayer de redessiner son parcours. Tu vas petit à petit éclairer son histoire familiale, l'histoire de son père notamment, et puis de tous ceux qui l'entourent, ces fameux moineaux dont on va beaucoup parler pendant ce livre, puisqu'elle était à cette époque-là, au début des années 50, avec une petite bande de très jeunes gens, des jeunes gens de 16-18 ans, qui traînait un peu à Saint-Germain-des-Prés et qui traînait en particulier dans ce café qui s'appelle Chez Moineau, où il passait du temps entre inactivité, beuverie, sentiment, liberté, pourrait-on dire, et désinvolture, mais on y reviendra évidemment au fil de cette conversation. C'est donc le portrait d'une femme, le portrait d'un groupe, le portrait d'une époque aussi, puisqu'il s'agit de l'après-guerre et de ses stigmates, pourrait-on dire. Et puis, c'est d'une certaine manière un autoportrait en creux, puisque l'enquêteur-écrivain est au cœur du livre. Il décide d'ailleurs une chose qu'il ne fait pas souvent, cet enquêteur-écrivain, de quitter son cocon, sa maison, son bureau, pour se lancer dans un tour de France en 24 jours, par les bords et par les bistrots.
C'est le plus bel exploit de toute ma vie. 59 ans, c'est vrai. Tout à l'heure, on était en train de boire un verre. Yannick Hub buvait un Coca-Cola. Et il me dit, quand est-ce que tu repars ? Plus jamais. J'ai fait, ça y est, j'ai atteint mon Himalaya, j'ai fait le Tour de France. Plus jamais je ne quitte mon pâté de maison. Sauf pour venir à Manosque.
Ceux qui ont lu le livre n'ont pas besoin de savoir que Philippe a bu un whisky, évidemment. Puisque c'est la logique de son livre. Voilà, on va commencer très, très vite, parce qu'on a toujours évidemment la question qui se pose de savoir comment naît un livre, et encore à plus forte raison lorsqu'on s'attaque au destin d'une femme qui est morte il y a 70 ans, une anonyme, malgré un petit passage de mannequin, mais très très bref. Et finalement, on le découvre au début du livre, la façon dont ça arrive jusqu'à toi, cette histoire-là. Tu es en train de travailler sur le livre précédent, Au printemps des monstres. Et y a quelque chose qui t'emmène vers elle, vers ce personnage-là. Alors je disais, c'est sa mort qui t'intrigue d'abord. Mais peut-être peux-tu développer un petit peu ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie de creuser autour de ce personnage de Kaki.
Donc en fait, en faisant les recherches pour mon livre précédent qui a été publié en 2021, donc les recherches c'est 2019-2020, parfois je fais des digressions ou des à côté, et donc je quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. En fait, pour essayer d'être bref, l'héroïne de mon livre précédent, c'est dans les années 60, elle s'appelle Solange, c'est la femme du terrible étrangleur. Et j'apprends qu'elle a fait une audition dans un cabaret à Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelait Chez Moineau. Je me renseigne pour savoir ce qu'est ce cabaret. Je découvre que Barbara a débuté là, à la fin des années 50, et que les patrons de ce cabaret avaient avant un petit bistrot à 200 mètres de là. Donc je me renseigne sur le petit bistrot, tout en me disant, je vois mon éditeur sur mon épaule qui dit « Arrête, reviens vers l'étrangleur et vers Solange ». Et donc, en faisant des recherches sur ce petit bistrot, j'apprends qu'il y a eu un événement, une jeune femme, la plus belle du quartier, la plus aimée de tous, la plus libre, plus joyeuse que le petit garçon qui passe, que tout le monde aime. Elle couche avec tous les garçons du quartier. Elle est folle amoureuse du plus beau soldat américain de Paris, qui est amoureux d'elle aussi. Et elle a tout pour elle, et à 20 ans, elle se jette par la fenêtre. Donc je me dis simplement, je découvre ça, mais par hasard, parce que je découvre que Patrick Modiano a écrit un livre sur elle, très romancé, mais enfin, Patrick Modiano, petit garçon, ses parents ne s'occupaient pas de lui, sa babysitter américaine l'emmenait traîner dans les bars de Saint-Germain-des-Prés, et un jour, elle l'emmène dans ce bar chez Moineau, 22 rue du Four, et il y a un jeune homme qui rentre et qui dit, c'est horrible, Kaki s'est jeté par la fenêtre, elle est morte. Et le petit Modiano, déjà à cet âge-là, tout ce qu'il entendait, tout ce qui se gravait en lui, 30 ou 40 ans plus tard, il a écrit un livre qui s'appelle « Dans le café de la jeunesse perdue » et qui est un roman autour de la... Enfin, il a laissé infuser ce drame de cette... Il a idéalisé cette belle jeune femme qui s'est tuée et il en a fait un roman 40 ans plus tard en inventant lui-même ce qui s'était passé. Bref. Quand je fais mes recherches sur le Printemps des Monstres, mon livre fait déjà 800 ou 900 pages. Je me dis, arrête, stop, ne t'occupe plus de cette jeune femme. Tu peux aller jusqu'à 950 pages, mais 1000, ton éditeur te tue, te poignarde, te tue. Donc je n'y pense plus. Je termine le livre sort. Je viens à Manosque d'ailleurs, j'étais là après le livre. Et puis en février, quand j'ai plus rien à faire, je me dis, ben tiens, par curiosité, je vais chercher pourquoi, essayer de voir si je trouve des choses sur cette jeune femme. Je ne m'imaginais pas du tout, je ne me faisais pas d'illusions. Je savais bien que je ne saurais pas pourquoi elle s'est suicidée ni qui elle était. Mais je me dis, j'essaye de chercher. Et en creusant tout ce que je pouvais juste sur Internet comme ça, sur elle, je trouve une photo d'elle. Je me rends compte que cette photo fait partie d'un livre de photos qui a été publié en 1956, qui s'appelle Love on the Left Bank, l'amour sur la rive gauche, par un jeune, à l'époque, photographe hollandais, qui est devenu après une sorte de référence, presque même de mythe, dans le monde de la photographie, qui n'est pas tellement connu du grand public, je pense, s'appelle Ed van der Elsken, mais pour les photographes, c'est quelqu'un de très important. Je réussis à trouver ce livre sur Internet d'occasion, je me procure le livre, j'ouvre, et là, il y a 200 photos qui sont prises pour la plupart dans ce tout petit bistrot de la rue du Four, sans fenêtre, sombre, un peu crado, un peu. Et sur ces 200 photos, il y a une quinzaine de très jeunes gens, des ados, enfin, entre 16 et 18, comme tu as dit, qui sont sublimes. C'est-à-dire que les photos sont très belles d'un point de vue artistique, photographique, etc. Mais eux, les jeunes gens, sont d'une beauté. Certains sont juste d'une vraie beauté plastique, mais d'autres, enfin, tous, ont dans les yeux, dans leurs attitudes, dans leur. Les manières qu'on devine, les photos sont évidemment immobiles, mais les manières qu'on leur devine sont d'une beauté humaine, et puis il y a un mystère derrière. J'arrivais pas à savoir si ces jeunes gens étaient complètement perdus ou juste s'ils s'amusaient, s'ils étaient joyeux toute la journée ou si en vérité ils étaient désespérés et qu'ils essayaient là de se resserrer les uns les autres pour lutter contre leur tristesse. Enfin, je n'arrivais pas à les comprendre. Et bref, je me suis dit, je n'avais même pas leur prénom. C'était il y a 70 ans. C'est comme si là, Yann sort un appareil photo, fait 200 photos, tchic, 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 tu les mets dans une boîte, et dans 70 ans, en 2095, il y a un type qui ouvre la boîte et qui dit, je vais essayer de savoir quelle était la vie de cette dame avec le foulard rouge, jaune et bleu. Quelle était la vie de ce monsieur qui, sur la photo, rajuste ses lunettes. Et donc j'avais très peu d'espoir, mais je me suis dit, pour une fois, je vais pouvoir écrire un livre court et un peu poétique à la Modiano, un truc où je ne vais pas chercher dans les détails, où je ne fais pas plein de digressions, un truc un peu vaporeux. De mon éditeur, une larme a roulé sur sa joue quand je lui ai dit ça. Viens là, mon petit, il m'a tapoté le... J'ai toujours su que tu pouvais un jour, là. Et puis finalement, grâce au, à la magie des archives françaises, enfin, qui sont un inestimable trésor, j'ai tout trouvé. Enfin, j'ai trouvé tout ce que je pouvais trouver. C'est-à-dire, j'ai trouvé qui étaient tous ces jeunes gens, qui étaient leurs parents, leurs grands-parents. Leur... Là, je me suis arrêté, je me suis dit, si je trouve qu'ils sont leurs arrière-grands-parents, je ne m'arrêterai plus. J'ai pu reconstituer leur enfance, ce qu'ils sont devenus ensuite, après ces photos où ils avaient 16 ans. Et j'ai vécu pendant 2 ans l'impression, j'ai eu l'impression de vivre pendant 2 ans au milieu d'eux, comme si j'étais un de leurs potes ou leur grand frère ou quelque chose comme ça. Et maintenant, je suis en contact avec leurs enfants qui ont mon âge. Ça fait vraiment, ça fait quelque chose de très particulier, quoi. Donc voilà, j'ai retrouvé tout ça et j'ai surtout, parce que je suis pipelette, j'ai surtout retrouvé... Cette jeune femme, Kaki, j'ai compris d'où venait... Enfin, j'ai compris, c'est très prétentieux. Je pense avoir approché d'où venait son mal-être et ne pas être très loin de savoir pourquoi, à 20 ans, le 28 novembre 1953, à 6h du matin, elle s'est jetée par la fenêtre ou elle est tombée par la fenêtre, en tout cas.
Peut-être encore une chose sur le début du livre, parce que tu as parlé du livre de Modiano... Et ce qui est, le premier chapitre s'intitule Dunkerque, je ne l'ai pas dit, mais chaque chapitre est nommé par la ville dans laquelle tu te trouves, dans ce Tour de France par les bords. Donc là, tu es à Dunkerque pour retourner sur les traces de Pauline Dubuisson, pour retrouver les lieux de vie après avoir écrit le livre. Et il y a aussi dans le livre énormément de coïncidences, et j'aimerais peut-être t'interroger là-dessus, puisque elle se jette par la fenêtre, Kaki, le 28 novembre 1953, qui a une date qui a à voir avec Pauline Dubuisson. Et on a l'impression finalement qu'il y a à la fois des coïncidences extérieures et des coïncidences presque internes à ton travail, comme si ça faisait écho à un livre précédent. Est-ce que cela, ça compte? Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça articule ton travail?
Alors déjà, je pense que les coïncidences, si on en cherche, on en trouve toujours. Donc moi, comme j'en cherche, enfin je ne cherche pas les coïncidences, mais en allant dans les détails forcément, ou par exemple... Donc, elle s'est jetée par la fenêtre le jour où Pauline Dubuisson, 10 ans plus tard, le même jour exactement, a été incarcérée après avoir tué son ancien fiancé. Je découvre complètement par hasard que cette histoire qui a tellement marqué pour toute sa vie Patrick Modiano, Kaki est né le 30 juillet, Patrick Modiano est né le 30 juillet, il ne le savait pas. J'espère qu'il a lu le livre, comme ça va dire, oh, bon sang, ce Jaénada, il est fort.
Il est là d'ailleurs, il a...
Donc oui, les coïncidences, moi c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si je crois à ces trucs-là ou si je n'y crois pas. En tout cas, plus il y a de coïncidences, quand je fais des recherches sur un livre, plus je trouve de coïncidences, plus je me dis, de manière très peu rationnelle, je dois être sur la bonne voie. Je compare ça à un truc, il y a 2 ou 3 ans, j'étais à Namur. Il y a un très beau festival du livre qui s'appelle l'Intime Festival à Namur. J'étais tout seul, je marchais dans les rues de Namur. Je ne me repérais pas, j'étais un peu perdu. Et par terre, je vois une coquille Saint-Jacques en bronze dans le trottoir qui sont les marques pour dire c'est la route de Saint-Jacques de Compostelle, qui n'est pas tout près de Namur, quoi. Et je me dis, le type qui veut faire le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, il est là en train d'errer dans les rues de Namur à des, à, je ne sais pas combien, 1000 ou 1500 km de Compostelle, il voit ça... Ouf, il se dit, c'est bon, je suis sur la bonne route, je continue. Et moi, les coïncidences, ça me fait ça. Quand je suis un peu perdu dans des recherches, je sais pas quoi, à chaque fois que je trouve quelque chose, et c'est souvent de déconcertant, de presque trop beau pour être vrai, je me dis, c'est bon, le monde s'organise, l'ordre du monde te montre que c'est par là. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est pour ça que je disais, quand on cherche des coïncidences, on en trouve. Tous les courriers, quasiment tous les courriers que je reçois, les mails ou les courriers de lecteurs et de lectrices qui ont lu mon livre, la moitié est consacrée à « c'est quand même incroyable, elle a rencontré son amoureux le 27 octobre 1952, c'est le jour du mariage de mes grands-parents ». On trouve toujours, et tous les gens m'envoient là où j'habitais, ma grand-mère habitait juste en face de l'immeuble où... Donc voilà, donc les coïncidences, je pense qu'elles sont partout. Il suffit de les chercher, on les trouve. Mais c'est rassurant quand même. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois.
Pour en revenir peut-être aux photos, et je vais demander bien sûr au public de ne pas tout de suite prendre leur téléphone portable pour aller les regarder, mais d'attendre un petit peu, parce qu'il y en a quelques-unes qu'on peut trouver sur le web. Tu le disais, c'est un photographe qui est devenu un photographe reconnu dans le monde de la photographie, mais à l'époque, c'est quelqu'un qui se balade, c'est pas encore le photographe qu'il est devenu. Et déjà, ça est quelque chose d'intrigant, c'est-à-dire qu'il se balade par là, il rentre, il est fasciné, comme toi, tu l'as peut-être été quelques années plus tard par ces jeunes gens dans ce café. Il y a le temps de la photographie, qui est évidemment le temps qui fige d'une certaine manière et qui ouvre précisément sur les années d'après. Peut-être nous reparler de cela, comment là aussi, c'est un hasard et une coïncidence que ce photographe soit à cet endroit-là et qu'il ait envie de prendre ses photos.
Et si ce photographe n'avait pas été à cet endroit-là, plus ou moins par hasard, encore une fois, le livre n'existerait pas, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais surtout, personne ne saurait qui étaient ces jeunes gens dans le bar. Et donc, c'est un jeune homme qui était un peu plus âgé qu'eux, qui avait 24 ans à l'époque, qui habite à Amsterdam, qui a pris des cours de photographie par correspondance à Amsterdam, qui est un peu pas paumé, mais qui ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie. Et un chagrin d'amour explosif et redoutable lui tombe dessus. Il est complètement désespéré. Il part tout seul d'Amsterdam avec un sac à dos. Dans son sac à dos, il a de la morue séchée que lui a donnée sa mère pour la route. C'est toujours ça. Et un vieil appareil photo comme ça, là, qui appartenait à son grand-père. Il marche. Il s'arrête à Maubeuge. C'est pour dire si le gars est désespéré, quoi. C'est-à-dire que... Il marche depuis Amsterdam et il arrive à Maubeuge. Il dit « Ah, ici, c'est réconfortant. » Donc, il fait une étape à Maubeuge et il continue. Il arrive à Paris. C'était son but. Il couche sous un pont, le pont Neuf, je crois, avec des clochards. Le lendemain, il se réveille. Les rats ont mangé toute sa morue séchée. Il lui reste que son appareil. Et à l'époque, Saint-Germain-des-Prés, c'était exactement l'inverse de maintenant. C'est-à-dire, c'était le quartier, un des quartiers les plus pauvres, ou en tout cas le quartier où allaient tous les jeunes, soit qui fuguaient de chez eux, soit qui voulaient se retrouver. C'était un quartier le moins cher et le plus vivant d'un point de vue jeune de Paris. Donc l'inverse d'aujourd'hui. Et dans ce quartier, le bar le moins cher et où vraiment les patrons, monsieur et madame Moineau, accueillaient tous les jeunes, le père Moineau, il venait d'acheter le café, le couple Moineau, et il voulait un peu attirer les gens. Et le père Moineau, il se mettait devant dans la rue, il repérait tous les jeunes qui avaient l'air malheureux ou très pauvres et disait, viens, il y a des soupes gratuites, ma femme fait un couscous du tonnerre, on te l'offre, etc. Comme pour la drogue, quoi, quand on donne de la drogue gratuite. Et donc les jeunes se sont retrouvés là à ce moment-là. Et ce Ed van der Elsken, à qui on a volé sa morue séchée, donc c'est le fond du trou, là, il est vraiment, il n'a pas pire. Quelqu'un lui dit, chez Moineau, tu vas manger, c'est pas cher, la bouteille de vin, c'est 10 francs. Et donc il y va, et en rentrant, c'est le plus âgé du truc, il voit ces très jeunes gens, hein, vraiment des gamins, qui sont là, qui vivent là presque en permanence, jour et nuit, qui dorment sur les banquettes, qui s'embrassent tous les uns les autres, qui pleurent, qui rigolent, qui boivent du vin. Et il a fait plusieurs milliers de photos. Hein. Dans le livre qui a été publié, on a 200 ou 250. Mais pendant un an et demi à peu près, il a fait des photos de tous ces jeunes. Et je pense que c'était plutôt instinctif. Mais quand on voit les photos aujourd'hui, ce sont des photos. Il a inspiré depuis ce photographe. Il a inspiré les plus grands photographes, des gens comme Nan Golding. C'est lui qui est vraiment le premier. C'est un peu comme Doisneau, mais en faisant des photos de gens à la marge. Comme on a vu après des photos de punk, de hippie. Et donc voilà, il fait ses photos, j'imagine, sans se rendre compte de ce qu'il fait, simplement poussé par la beauté de ce qu'il voit et l'envie de faire des photos. Et il en choisit 200 qu'il publie. Alors le livre Love on the Left Bank, c'est une sorte de presque de roman photo. C'est-à-dire que sous les photos, il a écrit, inventé une sorte de texte un peu romanesque et nunuche, surtout, c'est pas bien du tout, mais où ils ont des pseudos, ce qui, moi, m'arrangeait pas, c'est-à-dire que ça ne m'a pas aidé à savoir qui était qui. Mais voilà, il a publié ce livre qui est maintenant presque introuvable. J'espère que La désinvolture est une bien belle chose, va connaître un triomphe mondial, parce que c'est chez un éditeur de photos anglais. Les droits appartiennent et hollandais. Enfin bref, il y a une petite vidéo, mais alors je ne sais pas quoi, parce que moi, donc, je parle de ces jeunes et je parle des photos dans le livre. Et je pense que un des grands attrait et plaisir et quelque chose d'unique dans la littérature, c'est que là, si les cinq personnes qui sont devant moi lisent mon livre où je parle des photos, il y aura des photos complètement différentes, chacun dans votre tête. Chacun aura fabriqué la tête de Jean-Michel, la tête d'Eliane, la tête de Kaki. Enfin, Kaki, elle est sur la couverture. Donc, est-ce qu'il faut voir les photos? Avec mon éditeur, il n'y a pas eu de discussion. Il n'était pas question qu'on mette des photos dans le livre. Mais les éditeurs, ils aiment la littérature, puis ils aiment aussi vendre des livres. C'est normal. Et donc, j'ai fait une petite vidéo sur le site de mon éditeur où je montre les photos. Donc, pour les gens qui achèteront le livre, je pense qu'il vaut mieux les voir après, avoir lu le livre, mais si on veut, on peut aller les voir avant ou pendant.
Peut-être encore une chose sur ces photos et sur ces jeunes gens, parce que je disais en introduction que c'était des jeunes qui étaient d'une certaine manière désœuvrés ou inactifs, en tout cas, qui avaient effectivement le fait d'être dans un bar, de boire des verres, de s'aimer, de se croiser, de se frôler. Et je disais que c'est la liberté, c'est la désinvolture. On pourrait presque dire que c'est une forme de radicalité, de vie, de refus de s'insérer dans la société, ou en tout cas quelque chose de cet ordre. Et pour autant, ils ne sont pas guidés par une dimension politique forte, par une idéologie, par un rapport à un groupe. C'est ça aussi qui est fascinant dans leur histoire, c'est que c'est un groupe qui existe en tant que tel, qui refuse peut-être de s'inscrire dans la société, ou qui trouve là un refuge, mais sans qu'il y ait véritablement un mot d'ordre ou quelque chose de collectif qui les guide.
C'est exactement ce que je voulais... Il est fort. C'est exactement ce que je voulais montrer. En fait, ils refusent, comme tu dis, mais de manière complètement passive. C'est-à-dire qu'ils ne refusent pas, ils se mettent à l'écart. C'est-à-dire qu'ils s'enferment dans ce petit enclos, parce que le bar chez Moineau, c'est 30 mètres carrés, il n'y a pas de fenêtre, à part la baie vitrée de la porte. C'est sombre, étroit, pas très propre. Ils s'enferment là-dedans. Ils ne veulent pas travailler, enfin ils ne veulent pas qu'on leur parle de travail, ni qu'on leur parle d'études, ni qu'on leur parle de culture ou d'art. Les livres, la peinture ne les intéressent pas. Mais évidemment, ils ne revendiquent pas comme feront plus tard, je sais pas, les punks ou les hippies qui refusent le travail. Enfin, eux, ils ne revendiquent rien, juste, ils veulent se mettre à l'écart. Et en fait, pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi, tous ces jeunes gens sont nés entre 1931 et 1934, tous. C'est-à-dire que pendant l'occupation, ils avaient 10 ans. 10 ans, ce n'est pas un bon âge. Enfin, l'occupation, il n'y a pas de bon âge, mais 10 ans, si on est bébé sous l'occupation, on ne se rend compte de rien. Peut-être que le lait a un goût un peu pas terrible, mais on ne se rend compte de rien. Si on a 16 ans sous l'occupation, on se rend compte que ses parents souffrent, que les Parisiens, les Français souffrent, que c'est la guerre, que c'est l'horreur, mais on peut faire quelque chose. On peut devenir résistant, on peut devenir collabo, on peut devenir... escrocs et profiter de l'occupation pour gagner de l'argent. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Quand on a 10 ans, on se rend compte de tout. On voit ses parents souffrir, on voit ses parents mourir pour la plupart, la plupart sont orphelins. On voit l'état dans lequel est le monde et on ne peut absolument rien faire à 10 ans. Donc, en fait, ils ont été privés de cette partie de l'enfance très importante qui est entre la toute petite enfance, bébé, et l'adolescence. C'est une partie dont on parle pas beaucoup, j'ai l'impression, entre 7 et 11 ans, on va dire. Bon, bref, ils n'ont pas eu ça. Et sans vouloir faire de psychologie de comptoir ou de place de l'hôtel de ville, j'ai l'impression qu'ils ont voulu, au sortir de la guerre, à la fin de la guerre, ils ont voulu recréer ça qu'ils n'ont pas eu. C'est-à-dire qu'ils ont 16 ans, ils peuvent encore le faire. Ils peuvent encore se comporter comme des enfants, c'est-à-dire sans aucune contrainte, sans aucune obligation, sans aucun devoir, aucune pression, sans penser à plus loin que qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ils sont vraiment à 16-17 ans dans ce... Il y en a un qui dit plus tard, il y en a un qui a été interrogé plus tard, il avait 35 ans, c'était pas beau à voir, et il parle de cette époque, et il dit, il revient encore plus loin quand il était petit, et il dit, les seuls bons souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est quand j'étais malade et que ma mère m'apportait des illustrés et de la limonade. Et en fait... Après la libération, dans ce petit enclos, ce petit sanctuaire de chez Moineau, ils cherchaient des illustrés et de la limonade. La limonade, c'était du vin, pas cher, et les illustrés, c'était l'amour entre eux, les histoires d'amour. Ils jouaient beaucoup, ils jouaient aux échecs, ils jouaient aux cartes, ils jouaient aux 4-21. Et c'était vraiment, moi, ces photos-là, j'ai l'impression que c'est des photos prises dans une cour d'école primaire, mais avec des gens un peu plus grands. Donc ils sont, comme tu disais, ils refusent tout, mais ils ne le refusent pas. C'est comme si on disait, ouais, le fils de ma sœur, il a 10 ans, il est chiant, il ne pense pas à son avenir, il ne s'intéresse pas à Dostoïevski, il ne veut pas travailler. Enfin, eux, pour eux, c'était de cet ordre-là.
Ce qui est aussi très, très beau, et peut-être tu peux l'évoquer, cette chose-là, c'est que ça fait écho à un certain nombre d'autres livres, cette période de l'immédiat après-guerre. On a parlé de Pauline Dubuisson, mais il y en a d'autres, des livres. C'est qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure de ces livres, en passant finalement par des singularités, par des destins individuels, tu dessines comme ça quelque chose qui donne à voir cette période-là. Et en effet, les stigmates, les répercussions, les blessures invisibles de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette idée selon laquelle ils veulent préserver cette part d'enfance qu'ils ont mal vécue, c'est en enquêtant justement sur leur histoire, sur leur famille, sur leurs parents, que tu déduis cela, que tu le comprends? Tu as évoqué les fils et filles de déportés. On va parler de Kaki et du rôle de son père dans la cagoule. C'est ça finalement le va-et-vient entre ce que tu vois d'eux quand ils ont 16-18 ans et ce qui est finalement leur background familial.
En fait, moi, je me rends compte que c'est dur de savoir pourquoi. Moi, je m'intéresse aux vies des gens et aux faits divers, aux choses comme ça. Quand on s'intéresse à ça, il y a des dizaines, des centaines de sujets possibles. Tu vois, c'est-à-dire que tous les jours, en plus maintenant, les gens m'écrivent ou me croisent dans la rue en me disant « Ah, je suis content de vous rencontrer. » Ma grand-mère est accusée d'avoir tué l'âne de son voisin. Vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Faites quelque chose pour nous, s'il te plaît. Et donc, ou des gens qui me disent, est-ce que vous connaissez la fameuse histoire du squelette de Rocamadour en 1638? C'est un mystère qui n'a jamais été résolu. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc, des sujets, il y en a plein. Et tout d'un coup, il y en a un vers lequel on va. On ne sait pas pourquoi, sans jouer les artistes ou je ne sais pas quoi, mais il y a l'inconscient qui travaille. Moi, quand tout d'un coup, cette Kaki, dans mes recherches, il y a 3-4 ans, je la croise parmi plein d'autres, il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il y a, par exemple, une jeune femme qui a fait, il y a quelques années, un travail pour son doctorat ou une thèse ou son mémoire ou je ne sais pas quoi, ou sa licence, et qui dit, donc sur mes livres, et qui dit... C'est quand même incroyable. Tous vos personnages sont des jeunes gens qui ont toutes les cartes en main, qui sont intelligents, fins, drôles, beaux, que tout le monde aime, et à qui tout d'un coup il arrive un truc. Et moi, très sincèrement, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire, je ne me suis pas rendu compte que Bruno Sulac, Pauline Dubuisson, Georges Arnaud, Kaki, sont tous sous le même modèle, pour dire un mot un peu moche. Mais donc moi c'est juste ce qui m'attire, mais je ne me rends pas compte, je sens que ça m'intéresse, donc je cherche, et voilà. Mais donc il y a une part d'inconscient qui travaille beaucoup, et quand au fait que ça se passe tous à peu près dans les mêmes années, c'est tout bête en fait, j'aimerais pouvoir dire je suis fasciné par la libération, cette époque, trouble, etc. C'est pas faux, mais c'est surtout que je travaille dans les archives, j'adore les archives, c'est un plaisir presque équivalent à celui d'écrire le moment où je me documente, je passe un an et demi, 2 ans à me documenter dans les archives. Je me dis que là je suis presque en train de... C'est pour ça que j'écris presque. C'est-à-dire que là je pense à mon prochain, je me dis oh, bientôt je vais retourner dans les vieux papiers, etc. Et c'est simplement parce qu'il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de communiquer des dossiers avant 75 ans. Et que donc, 75 ans, on peut avoir des dérogations, mais tout arrive à cette époque. 75 ans, c'est 49, 50. Voilà. Donc, c'est tout bêtement pour ça, parce que je peux avoir accès au dossier. Mais à un moment, je vais dire, oui, non, mais je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, cette période me hante. Bon. En vrai, c'est un mélange entre de l'inconscient et des obligations, des contraintes auxquelles il faut s'adapter.
On n'a pas parlé d'un personnage important dans ce livre, c'est Guy Debord. Vous êtes peut-être un des rares auteurs d'ailleurs à emprunter un titre, à mettre un personnage dans l'un de vos livres alors que vous ne l'aimez pas particulièrement. Je ne crois pas que vous ayez une passion pour Debord, c'est en tout cas ce qui est indiqué dans le livre. Vous parliez de Modiano tout à l'heure, il y a un lien là aussi avec Modiano. avec le café de la jeunesse perdue. Et il y a aussi un lien avec sa présence dans ce café, et pourquoi pas un lien avec la naissance du situationnisme. Là aussi, c'est des petits jalons ou des galets comme ça qui petit à petit s'accumulent. D'abord, ça arrive à quel moment dans l'histoire, et comment est-ce que ça irrigue l'écriture du livre ?
Alors moi, déjà, depuis que je suis jeune, à chaque fois que j'entends parler de Guy Debord, de la société du spectacle, du situationnisme et tout ça, je fais « Waouh !» Je m'en vais, je fais trois pas, ça me fout le cafard. Ça, j'ai pas... Et en vrai, à 59 ans ou 58 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à Kaki, je ne savais presque rien de Guy Debord, du situationnisme, etc. Il se trouve que donc, dans ce café, où il y a ces jeunes gens qui vivent de la manière dont on a parlé tout à l'heure, il y en a un de ces jeunes gens qui a 19 ans, qui est Guy Debord, j'allais dire le futur Guy Debord, non, qui est Guy Debord. Et il est dans un coin, il fait partie, il discute avec eux, ils le connaissent, etc. Mais, par exemple, eux, c'est un détail un peu prosaïque, mais eux, ils boivent un peu n'importe comment. Lui, il boit beaucoup, mais il fait attention de boire des petites quantités régulièrement pour pouvoir rester toute la journée et les observer et voir comment ils se comportent. Et en fait, ce que font ces jeunes gens, les moineaux, qui s'enferment dans une bulle, qui jouent, qui s'aiment, qui créent leur monde sans préoccupation de l'extérieur, c'est le situationnisme. En fait, 10 ans plus tard, ou 5 ou 6 ans plus tard, Guy Debord va créer la théorie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou la philosophie du situationnisme, uniquement en s'appuyant sur ce qu'il a vu, ce à quoi il a assisté dans ce bar. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, parce que il y a un côté que j'aime chez lui, c'est son côté poivreau. Et son côté mélancolique. Mais sinon, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il les a jetés, en fait, ces jeunes gens. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il les a observés. Ils ont cru qu'il faisait partie de leur groupe. Et puis quand il a eu ce qu'il voulait, il les a, mais très méchamment, de manière très brutale, arrogante, vulgaire, violente, tout ce qu'on veut. Il les a jetés. J'ai plus besoin de vous. Cassez-vous. Une des choses qui m'énerve, c'est qu'il fait semblant d'être parmi eux et qu'il est dans un coin du bar à les observer. Mais moi, je me rends compte, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que dans le livre, à un moment, j'allais écrire, il est là comme un fourbe, comme un espion dans un coin du bar, il les observe. Je passe ma vie à faire ça, en fait, à me mettre dans un coin pour qu'on ne me voit pas et à écouter. Et je le fais d'ailleurs dans les bars du Tour de France que j'ai fait. Et puis, il y a une autre chose pour laquelle je suis obligé d'être reconnaissant et quand même de bien aimer Debord, c'est que sans lui, je n'aurais pas retrouvé tous ces moineaux. C'est parce que Guy Debord était dans ce café qu'il y a des disciples de Guy Debord, des adorateurs de Guy Debord, même 30 ans après sa mort, et qui donc ont permis de maintenir les fils, de parler des photos. Le livre de photos a été republié à la fin des années 90. C'est en partie grâce aux admirateurs de Debord, etc. Donc... Et puis il a rendu aussi un hommage à Kaki. Après sa mort, il a fait ce qu'il appelait une métagraphie, très pompeusement, c'est un collage en fait, il colle des trucs, qui s'appelle Mort de J.H., donc Jacqueline Arispe, en souvenir de Kaki, ou Fragile Tissu, il appelait ça, parce que quand Kaki a sauté par la fenêtre, son fiancé, son amoureux qui était avec elle, elle était en culotte, a essayé de la retenir, il a attrapé que la culotte. Et évidemment, c'est pas très solide, et donc la culotte est restée dans les mains et Kaki est tombée. Bref, donc Guy Debord, moi je suis un peu partagé. D'un côté, je l'aime bien, d'un côté, il me gonfle, mais surtout, je voulais pas qu'il soit au centre du livre. Il est comme il était dans le café, dans le livre, j'espère, que j'ai réussi à le mettre sur le côté. Je voulais pas que Guy Debord, dont on parle tout le temps, enfin dont on parlait, parce que là ça s'estompe un peu évidemment avec le temps, efface. Les moineaux. Je voulais que ce soit les moineaux, donc c'est comme ça que j'appelle les clients, les jeunes clients du bar. Je voulais que ce soit eux, les vedettes du livre, et que Debord reste un peu sur le côté. Mais c'est pas vraiment que je l'aime pas, mais bon, on s'en fout.
Il faut qu'on parle évidemment de ce Tour de France en 24 jours. Alors je disais par les bords et par les bistrots, de Dunkerque à Dunkerque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, puisque tu le disais, ce n'est pas vraiment ton habitude de partir pour une grande aventure comme celle-ci, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis que tu as besoin de faire cela, à la fois pour ton enquête, pour l'écriture, pour te mettre en relation avec une forme, je ne sais pas, de désinvolture ou de liberté, quoi qu'il y ait assez peu de désinvolture dans la manière dont tu travailles, plutôt de la minutie, semble-t-il, mais c'est quoi qui guide finalement cette espèce... presque de méthode ou de processus d'écriture Et finalement, évidemment, tout ce que ça va générer aussi de, ben, de voir l'écrivain au travail, de voir comment tu fonctionnes, et puis le regard que tu portes évidemment sur la France d'aujourd'hui, d'une certaine manière.
Alors déjà, la première qualité, le premier moteur de ce Tour de France, c'est le courage. Parce que normalement, je ne sais pas pour me donner un genre ou quoi, je vis complètement enfermé chez moi. Je reste 23 heures par jour chez moi et une heure au bistrot d'en bas. Le bistrot est dans le même pâté de maison, la boulangerie est dans le même pâté de maison, l'épicerie est dans le même pâté de maison. Donc je peux vivre pendant 2 ans sans traverser la rue. Et ça me rassure, ça me plaît, ça me fait plaisir. Et là, je me lance dans ce Tour de France, donc de Dunkerque à Dunkerque en 24 jours, tout seul, dans une voiture. J'ai pas de téléphone, donc j'étais vraiment tout seul, c'est-à-dire que personne ne pouvait me joindre. Et je me suis dit, ça va leur donner de l'air à ces jeunes gens enfermés dans l'ombre et dans la fumée, et surtout dans cette enfance qu'ils essayent de recréer, qui sont en plein cœur de Paris. La rue du Four, c'est, pour moi, ça doit pas être ça précisément, mais pour moi, c'est le milieu de Paris. Et moi, je vais faire le Tour de France au large. Je vais tourner au plus large possible autour d'eux, c'est-à-dire sur les bords. Vraiment, je longe la mer, je longe les montagnes, la Méditerranée, après les Alpes, etc., le plus large possible. L'Atlantique, les montagnes, il y a du grand air. Je vais faire un Tour de France des bistrots, tant qu'à faire. Et je me dis, ça va leur donner de l'air. Et puis, ça va donner de l'air aux lecteurs aussi, aux lectrices et aux lecteurs, parce que quand même, j'écris un livre. Je n'oublie jamais que je suis écrivain, que mon but, c'est d'écrire des livres et que les livres soient lus de manière agréable et intéressante par les gens. Donc, je me suis dit, ça ferait des petites... Donc, chaque chapitre porte le nom d'une ville. Je raconte un peu ce que je fais dans la ville, c'est-à-dire je trouve un bistrot, je me mets dans un coin comme le Fourbe Guy Debord et j'écoute, et je regarde et je décris ce que je vois. Et ensuite, tout le chapitre, je reviens sur l'histoire des moineaux. Et mon fils... qui est, je pense, l'un des 2 ou 3 êtres les plus extraordinaires de la planète, l'a lu et m'a dit tes petits passages dans les villes, c'est comme la brasse. Parce qu'il a fait de la natation quand il était petit, la brasse coulée, quoi. C'est-à-dire que quand on fait de la brasse coulée, le moment où on avance, c'est le moment où on est sous l'eau. On est sous l'eau et on sort la tête pour respirer. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer, mais c'est utile quand même de respirer, parce que sinon, on coule au milieu de la piscine. Donc voilà, donc moi depuis j'ai ce truc en tête, c'est que mes petites virées qui tournent parfois un peu au ridicule, parce qu'il m'arrive, j'ai la poisse, il m'arrive des trucs, ça permet d'alléger un peu puis donner de l'air, voilà. Donc j'étais pas sûr du tout, mon éditeur m'a dit, mais attends, tu veux raconter un truc sur des jeunes perdus en 1953 et tu fais le Tour de France des bistrots? T'es sûr que ça va... Et je sentais, j'ai dit, on va voir, ça va peut-être s'emboîter, j'espère que oui.
Et ce qui est beau, c'est que finalement, les lieux que tu traverses, c'est aussi des lieux, alors que tu choisis parce qu'ils sont au bord. Hein. Alors, il y a un petit passage par la Suisse, c'est presque une infraction à ton programme, mais je ne le signale pas, c'était juste en passant. Des lieux qui finalement résonnent aussi quelque part avec ton histoire, avec tes livres ou avec d'autres centres d'intérêt. On a parlé de Pauline Dubuisson à Dunkerque, on peut parler de Saint-Nazaire où tu vas sur les traces d'une certaine façon de Patrick Deville ou de Jean Rollin ou d'Olivier, je ne sais pas lequel des Rollins d'ailleurs tu évoques.
J'ai des formidables. La première fois que je suis venu à Manosque, à Belle Lurette, j'étais à table là-bas avec Jean Rollin et Patrick Deville et c'est des souvenirs très forts. Donc c'est aussi pour ça que je voulais les remettre dans le livre.
Et peut-être tu peux développer, j'allais parler de Tati et de Monsieur Hulot, c'est des endroits qui résonnent avec des lectures, des films, des choses de ton histoire à toi, c'est comme ça aussi que se détermine le livre et les lieux que tu traverses.
Oui, mais en fait ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les coïncidences, c'est-à-dire que je me dis, donc je pars de Dunkerque, il faut que je revienne à Dunkerque, en partant par, dans votre sens, par l'ouest, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je voulais pas passer 6 mois sur les routes dans ma voiture de location, donc j'avais calculé qu'il fallait que je fasse à peu près entre 250 et 300 km par jour en voiture. Et donc il y a quand même cette contrainte, c'est-à-dire que si je suis à un moment je suis à Dinard, mon étape d'après ou d'avant, ça peut pas être Saint-Malo parce qu'il y a 3 km, ça serait ridicule, je perdrais du temps. Donc J'avais des points. Je voulais surtout faire les six coins de l'Hexagone, c'est-à-dire aller le plus au nord, le plus à l'ouest, le plus au sud-ouest, etc. Donc ça, c'est-à-dire Dunkerque, Le Conquet, petit cours de géographie, Hendaye, Port-Vendres, Menton, Vissembourg et Dunkerque. Ce sont les six coins de l'Hexagone. Il y avait ça, et entre les deux, si par exemple, tu vois, je voulais m'arrêter à Saint-Nazaire pour Deauville, que je n'ai pas vu. Hein. Quand j'ai commencé à préparer ce Tour de France, parce que dans le livre, on dirait que je le fais au hasard, mais en vrai, j'avais tout préparé. Je m'étais dit, j'ai un pote à Brest, je passerai voir Deauville à Saint-Nazaire, je passerai voir machin. Et en fait, j'étais tellement bien dans ma bulle de voiture, je n'ai prévenu personne, je suis passé, j'ai fait tout seul. Et donc, quand j'avais le choix entre, je suis au Conquet, c'est-à-dire c'est la pointe extrême ouest de la Bretagne, j'aurais pu m'arrêter à Carnac, à Saint-Nazaire ou à, je sais pas où, un peu plus loin, c'était pas... Mais donc je me dis, à Saint-Nazaire, il y a Deauville, c'est là qu'il y a le truc dans Tabataba, dont ils parlent dans Tabataba, je vais m'arrêter là, comme ça me permettra de... À Port-Vendres, je me suis arrêté à Port-Vendres parce que c'est le premier bar de ma vie, mais mon oncle et ma tante avaient un bar à Port-Vendres. C'est la première fois que je suis rentré dans un bar, pas la dernière. Et donc j'ai retrouvé, c'était une émotion, je le dis dans le livre, et j'espère qu'on me croit, parce que c'était... Donc j'arrive sur ce Port-Vendres, c'est un petit port... en dessous de l'Argelès, etc. J'arrive et j'avais un souvenir, j'avais 5 ans, c'était pas hier matin, hein. J'avais un souvenir vague de la porte du bar et tout, et je me promène, évidemment, tout a changé. Et tout d'un coup, je vois un truc fermé. Je dis, oh là là, ça ressemble, j'ai le cœur qui bat et ça. Et à côté, il y a une petite boutique qui vend du café, je sais pas quoi. Et je rentre, je dis, vous savez, un type de 35 ans. Vous savez, si avant il n'y avait pas un bar dans les années 70, au tout début des années 70 ou fin 60, il me dit, attendez, j'ai une vieille photo, comme il y a souvent dans les bars, d'un truc des années 60, épinglée sur son mur en noir et blanc, et je vois le café de mon oncle qui est le truc à côté. Et donc je suis allé boire un verre dans ce bar qui a ouvert à 17h, le comptoir c'est le même, la salle c'est la même, je me revoyais et je bois mon verre, et à côté de moi il y a le petit moi qui, sur un tabouret, qui a 5 ou 6 ans, qui boit sa grenadine à côté. C'est des moments... Donc, par exemple, c'est pour ça que je m'arrête à Port-Vendres et pas à Cerbère, qui est à 3 km et qui est la ville encore plus au sud. Mais voilà. Donc, c'est un mélange entre le hasard, la nécessité et puis une volonté d'écrire un livre et de raconter une histoire.
Et c'est amusant ce que tu disais tout à l'heure sur les remarques de ton éditeur, et c'est son métier, hein, de dire... comment les choses vont se rapprocher ou comment elles vont faire écho, ces deux fils narratifs. Et en réalité, l'émotion qu'on a, elle vient à la fois de l'histoire de Kaki, de la vie de ces jeunes gens qui ont une vie terrible pour la plupart, à la fois leur enfance et ce qui se passera après cette période de 53.
Mais pas pendant la période chez Moineau.
Pas la période, en effet, chez Moineau. Mais l'émotion, elle vient aussi d'un certain nombre de choses que tu mets à l'intérieur du livre. Et je pense notamment aux références que tu fais à deux de tes amis qui s'appellent, je crois, Véronique et Mathilde, où tu parles de leur suicide. Et c'est marqué, il me semble que ça, c'est Génada en plein, c'est-à-dire que c'est quelque part, c'est mis dans un coin de chapitre. Et peut-être, est-ce qu'au bout du bout, c'est ça aussi l'intérêt que tu as pour Kaki, ou en tout cas quelque chose de cet ordre?
Oui, ça doit être exactement ça. C'est quand je parlais d'un truc plus ou moins inconscient tout à l'heure, je me dis pas... Quand je découvre l'histoire de cette jeune femme, je ne me dis pas « Oh, mes deux meilleurs amis se sont suicidés aussi, alors je vais parler d'elle. » Mais il y a forcément quelque chose... J'y pense pendant l'écriture du livre. Tu vois, pendant l'écriture du livre, je me dis « Oui, ça me rappelle des choses. » Mais je pense qu'on est tous pareils. Hein, on est attirés... je sais pas, il y a des gens qui ne tombent amoureux que de femmes qui ressemblent à leur mère, qui est morte quand ils avaient 5 ans. Il y a des gens qui... vont dans des régions, enfin on a tous des raisons enfouies, et moi évidemment, même si je me suis absolument pas dit de manière explicite et concrète, évidemment si cette jeune femme me touche, c'est qu'il y a des gens très importants dans ma vie qui se sont suicidés aussi, et alors là c'est là que évidemment on ne comprend pas, c'est-à-dire que mon amie Mathilde par exemple, elle se suicide à 30 ans, Elle a toutes les qualités du monde. On peut chercher tout ce qu'on veut. On peut entrevoir de vagues raisons, mais on ne saura jamais. Et moi, quand je mets au dos du livre, sur la quatrième de couverture, elle s'est suicidée, elle avait tout pour elle, etc. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Je sais que c'est complètement illusoire. Mais dans un livre, peut-être qu'on a plus l'impression... Enfin, je ne vais pas m'auto-analyser devant tout le monde, mais peut-être qu'on a plus l'impression qu'on peut, par la logique de l'écriture, par le processus, l'entraînement de l'écriture, qu'on peut comprendre, alors qu'en vrai, évidemment, non, je ne sais pas. Encore moins que pour mon amie Mathilde, je ne sais pas pourquoi quelqu'un s'est suicidé. Mais quand on écrit, quand on est lecteur et quand on est l'écrivain, il y a une sorte d'enchaînement où on arrive à dégager, pas une logique, mais une certaine mécanique qui est un peu rassurante. Mais évidemment, ça reste quelque chose pour se rassurer, se consoler, se réconforter. Mais...
On a parlé de la désinvolture tout à l'heure. J'ai une double question et puis peut-être après je donnerai la parole au public parce que ça file à toute vitesse. Est-ce que on peut avoir de la désinvolture dans l'écriture ?
J'allais dire non. Et en fait, alors pour moi, la désinvolture, je me suis rendu compte, moi, j'avais jamais beaucoup pensé, mais par exemple, l'autre jour, j'ai entendu à la télé, il y a eu un meurtre, je ne sais plus où, et un chroniqueur ou un ministre, ou je ne sais plus, disait c'est à cause de la désinvolture de la police. Alors que pour moi, alors désinvolture, pour certaines personnes, c'est je m'en foutisme, laxisme, des choses comme ça. Pour moi, je prends le sens étymologique, ça vient de l'italien désinvolto. Et donc, involto en italien, c'est ce qui est enveloppé. Les involtini, vous voyez ce que c'est, par exemple, c'est du fromage avec du jambon qui l'enveloppe. Donc, involto, c'est ficelé. Et désinvolto, c'est ce qui n'est pas ficelé. Ce qui est dégagé de tout lien, de toute contrainte. Dans l'écriture, à la fois, non, parce qu'il faut bosser, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler, faire sérieusement et tout ça. Et il y a quelque chose, quand même, d'unique dans la littérature, dans l'écriture, c'est que, moi, en tout cas, dans ma vie, mais je pense dans pas mal de vies d'écrivains, c'est le seul domaine où je suis entièrement libre. Mais entièrement libre. Là, si je veux, devant vous, me mettre tout nu, tout à coup, et me mettre à chanter la Traviata, éventuellement, je peux, mais ça va faire des problèmes. Si je dis à ma femme, chérie, cette nuit, je vais dormir chez la voisine, la jeune, avec des gros nichons, mais je te promets, je reviens demain, ça va faire des problèmes. On n'est pas libre, même avec les gens qu'on aime et les gens les plus proches, ma mère, mes amis, etc., ou dans le travail, évidemment. Dans l'écriture, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, c'est à mes risques et périls. Hein. Je peux faire un livre de 900 pages avec 48 000 parenthèses. Je l'ai fait. Ça s'appelle « Au printemps des monstres ». Mon éditeur m'a dit « Si tu avais fait deux fois moins de pages, tu aurais vendu deux fois plus de livres. » Tant pis. Mais je l'ai fait. Si j'ai envie d'écrire une page en finlandais, je peux. Ça va ennuyer des lecteurs qui vont dire oh, « Celui-là, je ne plus jamais. » Mais enfin, je peux. Donc, c'est le seul domaine de liberté absolue. C'est aussi parce que dans la littérature, dans l'édition, il n'y a pas des sommes énormes en jeu. Au cinéma, où, c'est plus compliqué. Il y a de l'argent, il y a des choses. Donc, à la fois, il y a une contrainte de sérieux et de travail, mais on peut faire ce qu'on veut. La désinvolture, on peut... Moi, je tends vers ça. C'est-à-dire que plus je vieillis, plus je me dis, il faut que j'arrive... On peut la trouver de manière éphémère. Les moineaux, pendant 2 ans, les jeunes moineaux, là, chez Moineaux, ils ont été parfaitement désinvoltes. Ils l'ont payé très cher, mais pendant 2 ans, ils n'ont eu aucune responsabilité, aucun souci, rien. Moi, pendant mes 24 jours de Tour de France, où j'étais tout seul, injoignable, et où je n'avais absolument rien à faire, parce que dans le livre, je travaille à chaque étape, j'arrive à Cherbourg, je regarde mes mails, je travaille et tout. C'est une construction pour la narration. En vrai, je ne foutais rien du tout. C'est-à-dire, mais c'est vrai, j'arrivais à Cherbourg, je posais mes valises à l'hôtel. Bonjour madame, je posais mes valises. Je marchais dans le vieux Cherbourg. Ce bar a l'air intéressant. Je m'asseyais au bar, je restais 2 heures. Ensuite, je cherchais un restaurant. Cette crêperie a l'air pas mal. Je mangeais la crêperie, je rentrais me coucher. Et le lendemain, je partais vers Dinard. Et je faisais exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant 24 jours, j'ai été d'une légèreté. Déjà, physiquement, je suis léger, je suis aérien. Mais là, j'avais l'esprit entièrement libre. Et pour le coup, j'ai vraiment expérimenté la pure désinvolture pendant 24 jours. Mais j'aurais pas pu le faire pendant 36 jours ou a fortiori pendant 2 mois, 1 an. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc voilà, c'est éphémère, intense. Et mon but, c'est, là pour l'instant, mon record de désinvolture dans toute ma vie, c'est 24 jours consécutifs. Mon but, c'est dans 10 ans, peut-être je parviendrai à passer 2 mois entièrement désinvolte. On verra.
Ce que tu ne dis pas, c'est que dans ce périple, d'abord tu finis par parler à ton GPS, hein, parce que tu parles à personne. C'est Jonathan Coe d'ailleurs le livre dont tu parles. Et puis tu regardes Koh-Lanta.
Tous les mardis. 24 jours, ça fait 3 mardis.
C'est le mardi, donc là on n'est pas pressé, on peut encore parler 5 minutes. Tu ne vas pas rater Koh-Lanta si on reste quelques minutes.
Surtout, on n'est pas du tout mardi.
Bon, donc pas de problème. Merci Philippe, je me tourne vers le public. Merci à toi en tout cas pour cette conversation. Merci. Si vous souhaitez dire un mot à Philippe, apporter peut-être un témoignage de lecture ou une remarque sur ce que vous avez attendu, vous pourrez retrouver de toute façon Philippe là dans la foulée pour un temps de dédicace et de discussion. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ?
Et sinon, bon appétit.
On s'arrête là. Monsieur, allez-y. Vous aurez le dernier.
Aujourd'hui, le 22 rue du Four, c'est une boutique de parfums. Ça a été chez Moineau, ça s'est arrêté en 1955. Ça a été un bar jusqu'au début des années 70. Puis après, ça a été des magasins de vêtements, etc. C'est une boutique de parfums. J'y suis allé. Ça faisait 2 ans que j'étudiais toutes les photos. Je connaissais chaque centimètre carré de ce bistrot et je savais exactement à quelle place était Kaki ou ses amis. Je suis rentré, ça n'a pas changé du tout, évidemment, les murs sont les mêmes. J'ai été très surpris par l'exiguïté du lieu, c'est tout petit. En fait, c'est vraiment, je disais comment tous ces gamins, toute cette jeunesse, tous ces fantômes qui m'accompagnent depuis 2 ans, ont pu tenir là-dedans jour et nuit. Donc c'est une boutique de parfums un peu chic. Je suis rentré, je me suis dit, je vais acheter un parfum à ma femme, Anne-Catherine, pour... Oui, c'était une jeune vendeuse asiatique qui parlait français avec l'accent anglais, enfin avec un fort accent anglais. Et donc, je lui disais, oui, je viens chercher un parfum pour ma femme, mais je regardais partout, je voyais. Et ce qui était l'arrière-salle de chez Moineau est aujourd'hui la réserve de ce truc de parfum, mais c'est ouvert. Et donc, je n'arrêtais pas de regarder à l'endroit où il s'installait. Et à un moment, j'ai senti qu'elle me regardait, qu'est-ce que je disais, le type repère, quoi. Le type vient faire des repérages pour me braquer mon... Donc j'ai dit, pardon, je dois vous sembler un peu bizarre, mais j'écris un livre sur... Il y avait un café ici, donc je lui raconte un peu. Et elle me dit, comment ça va, il va sortir quand? Alors j'ai dit, septembre 2024, comment ça va s'appeler? Et là, je dis, dans ce truc, je dis, la désinvolture est une bien belle chose. Bon, j'achète le parfum pour ma femme, je sors, et sur le trottoir, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai prononcé à voix haute le titre de mon livre dans le petit sanctuaire où flottent tous les fantômes de ces gamins que j'aime tellement. Et j'ai prononcé le titre à voix haute. Je suis un peu neuneux, mais j'étais vraiment ému sur le trottoir. Quoi. J'étais vraiment... voilà, je suis allé dire à leurs fantômes, j'écris un livre sur vous, les petits.
Bravo Philippe, merci beaucoup. On peut te retrouver donc pour un temps de dédicace. La désinvolture est une bien belle chose chez Mialet Barreau. Merci Philippe,
merci
et merci
Yann,
à vous.
Merci Yann, bonne soirée.